Chapitre 5 Versets 1 à 5 Caractère de celui qui appartient à la famille de Dieu. Citation de l'Écriture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Fin de citation. En outre, aucun doute ne subsiste quant à savoir qui est notre frère. Car l'apôtre nous donne les caractères de celui qui appartient à la famille de Dieu. Premièrement, notre frère est quelqu'un qui a manifesté qu'il est né de Dieu en ce qu'il croit que Jésus est le Christ. Deuxièmement, étant né de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu et tous ceux qui sont engendrés de Dieu, les enfants de Dieu. Troisièmement, aimant Dieu, il garde les commandements de Dieu et ils ne sont pas pénibles car son grand commandement est d'aimer notre frère. Quatrièmement, celui qui est né de Dieu vainque le monde par la foi. En tant que né de Dieu, nous ne sommes plus de ce monde, comme le Seigneur a pu dire, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Nous appartenons à un autre monde, dont Christ est le centre et, par la foi, nous regardons à ce monde-là et nous nous élevons au-dessus de ce présent monde mauvais. Cinquièmement, la foi qui vainc le monde est une foi qui a Christ pour objet. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Versets 6 à 12 Les témoignages rendus au Fils. Citation de l'Écriture. C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus, le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Fin de citation. Avant de terminer son épître, l'apôtre présente un triple témoignage au Fils de Dieu, celui par qui la vie éternelle a été communiquée aux croyants. Il y a le témoignage de l'eau, le témoignage du sang et le témoignage de l'Esprit. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde par l'incarnation. Mais pour pouvoir bénir les pécheurs et pour communiquer aux croyants la vie éternelle, il a dû venir par l'eau et le sang. En d'autres termes, il devait mourir. Sa vie de perfection infinie mettait à nu notre condition et révélait nos besoins. Mais ne pouvait pas répondre à notre état, ni communiquer la vie éternelle. Sans sa mort, il serait resté seul à jamais, selon ses propres paroles, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, verset 24. L'eau et le sang qui sont sortis du côté percé d'un Christ mort rendent tous deux témoignage de sa mort. Mais il présente deux grands résultats de sa mort. L'eau rend témoignage du jugement de mort prononcé et exécuté sur la chair, jugement par lequel le croyant est délivré de la vieille nature. Nous sommes crucifiés avec Christ et participants de la vie de Christ ressuscité. Nous nous tenons nous-mêmes pour morts avec lui, au vieil homme qui est gouverné par le péché. Nous sommes ainsi délivrés de la vieille nature. En outre, il est venu à nous par le sang. Par sa mort, nous sommes non seulement libérés du vieil homme, mais nous sommes, par son sang, justifiés de nos péchés. De plus, sur le fondement de sa mort et de sa résurrection, le Saint-Esprit a été donné pour nous rendre témoignage de Christ et de l'efficacité de sa mort. Laissant de côté le verset 7, reconnu comme une interpolation, nous retrouvons les trois témoins, mais cette fois dans l'ordre de leur témoignage sur la terre. Au verset 6, nous avons eu l'ordre historique, selon lequel le Saint-Esprit est venu après la mort de Christ. Lorsqu'il est question de témoignage, s'adressant à nous, le Saint-Esprit est mentionné en premier, car c'est par l'Esprit que nous recevons le témoignage de la mort de Christ et apprécions la valeur de l'eau et du sang. Ces trois, l'Esprit, l'eau et le sang, s'unissent pour rendre un seul témoignage au Fils et à l'efficacité de son œuvre et à la bénédiction de la vie éternelle qui est donnée aux croyants par cette œuvre. Dans ces versets, l'apôtre nous rappelle que le témoignage à ces grandes vérités est de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, combien plus devrions-nous recevoir le témoignage de Dieu rendu au sujet de son Fils ? Celui qui croit a, par l'Esprit, le témoignage de la vérité de Dieu au-dedans de lui-même. Dieu ayant ainsi rendu un témoignage irrécusable concernant son Fils, celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur. Toutes ces grandes vérités, la mort de Christ et la présence de l'Esprit dans le croyant, rendent témoignage du fait que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Elle est en nous comme don. Elle est en lui comme source. En dehors du Fils, il ne peut pas y avoir de vie devant Dieu. Avoir le Fils, c'est avoir reçu la vérité et avoir le Fils comme l'objet de notre foi. Celui qui ne connaît pas le Fils ou qui rejette la vérité n'a pas le Fils de Dieu et n'a pas la vie. Versets 13 à 21. Confiance en Dieu. L'épître se termine par une expression de la confiance en Dieu qui est le résultat pratique du fait d'être établi dans la vérité de la vie éternelle. L'effort des docteurs antichrétiens et des faux prophètes contre lesquels l'apôtre met les croyants en garde est d'ébranler leur confiance en Dieu. Le grand but de l'enseignement de l'apôtre est d'affermir les saints dans la vérité et de fortifier ainsi leur confiance en Dieu et de les rendre capables de résister à ceux qui voudraient les égarer. On remarquera dans ces derniers versets que cette confiance en Dieu est maintenue devant nous par l'emploi répété des expressions « vous savez » et « nous savons » versets 13, 15, 18, 19 et 20. Versets 13 à 15. Citation de l'Écriture. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Fin de citation. Des séducteurs avaient cherché à détourner les croyants de la vérité présentée en Christ dès le commencement, pour unir les saints avec le monde, et affaiblir l'enseignement des apôtres en mettant leur autorité en doute. Le travail de ces faux docteurs tendait à priver les saints de la connaissance et de la jouissance de leurs privilèges. Pour contrecarrer ces mauvaises influences, l'apôtre adresse son épître à ceux qui croient au nom du Fils de Dieu pour qu'ils sachent qu'ils ont la vie éternelle. Dans la vie de tous les jours, cette confiance en Dieu s'exprime dans la prière. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Selon sa sagesse et son amour parfait, il se réserve de répondre à nos requêtes en son propre temps et à sa propre manière. Dans la confiance en Dieu, qui est le résultat de la vie nouvelle, nous avons le privilège de présenter nos requêtes à Dieu, mais non pas de dicter à Dieu ce qu'il doit répondre. Il peut juger bon de nous faire attendre, mais pendant l'attente, nous avons la consolation de savoir qu'il écoute tout ce que nous demandons et qui est en accord avec sa volonté. Versets 16 à 21. Citation de l'Écriture. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui, et lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort, pour ce péché-là je ne dis pas qu'il demande. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui n'est pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Enfants, gardez-vous des idoles. Fin de citation. En outre, cette confiance en Dieu nous amène non seulement à prier pour nous-mêmes, mais aussi à intercéder pour d'autres. Bien des maladies frappant les enfants de Dieu ne sont en aucune manière un châtiment consécutif à un péché commis, mais sont, comme dans le cas de Lazare, en vue de la gloire de Dieu. Jean 11, verset 4. Toutefois, les voies gouvernementales de Dieu envers les siens s'exercent, et si nous voyons un frère frappé par Dieu d'une maladie à cause d'un péché particulier, nous pouvons intercéder pour ce frère, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un péché à la mort. Toute iniquité ou injustice est péché et entraîne des conséquences gouvernementales, mais ces conséquences ne sont pas toujours la mort du corps. Les circonstances particulières déterminent si un péché est à la mort ou non. Plus d'un croyant peut avoir menti sans être placé sous le châtiment sévère de la mort, mais dans le cas de Ananias et de Saphira, le mensonge était aggravé par les circonstances de sorte qu'il portait le caractère d'un péché à la mort. Malgré tout ce que peuvent dire les séducteurs, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Nous savons qu'étant né de Dieu, nous avons une vie nouvelle, et que cette vie nouvelle est parfaite et ne peut pas être atteinte par le méchant. Ainsi, le Seigneur peut dire de ses brebis, « Moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, verset 28. Vivant la vie du nouvel homme, nous ne pêcherons pas, ni ne serons troublés par le méchant. De plus, ayant une vie nouvelle, nous savons que nous sommes de Dieu, nous pouvons ainsi distinguer entre ceux qui sont nés de Dieu et le monde qui nous entoure et qui gît dans le méchant. Vivant ainsi dans la puissance de cette vie, non seulement nous échappons aux méchants, mais nous sommes délivrés du monde. Enfin, l'apôtre fortifie notre confiance en Dieu en résumant les grandes vérités de l'Épître. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. L'Épître s'ouvre sur cette grande vérité. Étant venu, il nous a donné une intelligence complète, comme étant la pleine révélation de Dieu, afin que nous connaissions le véritable. Ainsi, nous lisons ensuite dans l'Épître que le message que nous avons entendu du Fils est que Dieu est lumière et que Dieu est amour. Nous avons en outre appris que par le don de la vie éternelle et par l'Esprit, nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Cette personne bénie à laquelle nous sommes unis est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est une personne divine en qui la vie éternelle a été manifestée en perfection. Enfin, il nous est rappelé que tout ce qui viendrait se placer entre notre âme et Dieu et empêcher la jouissance de la vie qui est le grand sujet de l'Épître est moralement une idole. Toute l'Épître est là pour nous encourager à vivre la vie divine que nous avons reçue et à être ainsi préservés des idoles.